Bonjour, vous êtes bien sur Radio Cause Commune. Est-ce que je m'entends pas, évidemment? Normalement, t'es en ligne, là?
C'est parfait.
Alors, Étienne, est-ce que tu es là?
Oui.
Oula.
Je suis là.
Oui, tu es là. Et le générique est lancé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.fm. C'est l'heure de Rayon Libre. Cette émission est en direct. Vous pouvez vous en rendre compte puisque on vient de faire une prise en ligne un peu au dernier moment. Vous nous écoutez comme vous voulez, quand vous voulez, mais écoutez-nous, c'est le moment de Rayon Libre. Merci de votre écoute, ne soyez pas timide, partagez ces productions, likez, commentez, ça nous aide. Merci pour vos dons aussi, ça aide notre radio associative. La question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que trop de vélo nuit au vélo? Je me posais cette question la semaine dernière, avant de voir sur les réseaux sociaux cette vidéo postée par Larry versus Harry, l'entreprise derrière le vélo Bullitt, un biporteur. On y voit 50 ou 70 cyclistes serrés comme des sardines sur la piste cyclable enneigée au Danemark et sur la voie réservée aux automobilistes, une seule voiture sur le plan qui dure environ 10 secondes. Même si cet extrait n'est qu'un extrait, même s'il ne permet pas de tirer des conclusions définitives, il pose des questions, notamment est-ce que trop de vélos ne nuirait pas au développement du marché, de l'industrie, du développement du nombre d'usagers? À Paris, les vélocistes ferment les uns après les autres, après une frénésie d'ouverture, une série de fermetures, pastel, finito, Ansel Marcel, bye bye, quai des cycles fermés, kilomètre zéro, on oublie, vélo, oxygène, avenue de la Grande Armée, ciao. En France et ailleurs, les marques passent et trépassent, Nomad est parti, Angel, au revoir, petit ange parti trop tôt, Cowboy n'est plus en selle. Bon, ces deux marques sont reprises par Rebirth et perso, et ça n'engage que moi, je ne donne pas cher de leur futur. D'autres marques vont disparaître faute de modèle économique et viable. Les cyclistes ont pris de plus en plus de place dans l'espace public, ils deviennent un sujet, ça me rappelle les mots du porte-parole de la Fédération Française des Motards en Colère qui était venu au micro, je vous invite à réécouter sa conclusion. Il nous prédisait que le monde du vélo allait devoir en devenant plus important, allait devenir de plus en plus vu et de plus en plus vu comme un nuisible. Finalement, est-ce que trop de vélos nuit au développement du vélo? Aujourd'hui, au micro, un entrepreneur, il a lancé sa marque de longtail avec Nicolas, une proposition sur un vélo made in France, fabriqué à la demande, de manière artisanale ou presque, en faisant attention à chaque détail, chaque périphérique, proposer un vélo cohérent, rassurant, facile à piloter, et ce n'est pas facile. Il va nous raconter son aventure, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, ce dont il a besoin. On entend beaucoup l'objectif politique de réindustrialiser la France par le vélo ou le vélo pour accompagner une réindustrialisation de la France. Et Étienne, pour Etni, il voit concrètement les fruits de ses politiques. Est-ce qu'il est accompagné autrement que par son actionnaire? Allez hop, sautons à pieds joints dans le plat. Bonjour Étienne, merci beaucoup d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour, introduction de fou, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, donc ravi d'être avec vous pour le café.
Eh ben, c'est un plaisir de te recevoir, de vous recevoir, Étienne. Je vais vous voyer, même si on se connaît un peu, vous pouvez me tutoyer comme vous voulez. Étienne, vous êtes un acteur du cycle avec une approche semi-industrielle et semi-artisanale. On progresse dans l'industrialisation de la France par le vélo, selon vous?
Alors, en tous les cas, nous, on a travaillé le vélo pour ça. On n'avait pas les armes pour lutter contre des très gros. Et donc, le parti pris, en fait, il est un peu implicite de réindustrialisation et de produire localement, compte tenu de notre modèle. Lorsqu'on a lancé notre produit il y a 5 ans, le but, c'était de faire quelque chose de très durable et de local.
Ouais, ouais.
En fait, on ne pouvait pas travailler sur un vélo à grande échelle avec une production Asie. Ça, c'est des choses que l'on ne peut pas faire. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt de travailler sur un vélo local, durable. Donc le cadre est fabriqué en local. On essaye de conserver des composants quand même fiable et pérenne, parce que le sujet quand même, c'est que on dit partout qu'on remplace la deuxième voiture, on n'est pas sur un usage loisir, donc il faut quand même un niveau de fiabilité très important sur ces composants et sur ces vélos. Donc aujourd'hui, dès qu'on peut, on fait du local, du durable avec nos acteurs locaux, et quand il faut aller servir chez Bosch par exemple, tu vois, en Allemagne, etc., on fait comme ça, on est clairement sur des fourches, on n'a pas aujourd'hui trouvé d'acteurs, on est chez Suntour, voilà.
Ouais.
Donc on essaye de mettre le curseur au maximum côté durabilité et local.
Et donc ça, c'est un peu le positionnement d'Ethni. J'aimerais quand même revenir sur l'idée de départ et peut-être même l'envie initiale. Ouais. Au départ, Étienne et Nicolas, c'est une reconversion pro, vous aviez envie de faire autre chose?
Absolument, la quarantaine. Non, l'idée pompeuse, c'était d'être un maximum de vélos sur la route. Et puis, c'était quand même de faire du moyen de transport par défaut, d'utiliser le vélo comme le moyen de transport par défaut pour les mobilités locales. Le gros truc, c'était de se retrouver à la boulangerie avec tes trois voisins, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de marquant pour nous. Nous, on vient plutôt du digital et on s'est dit, bah super, on va faire, je sais pas, une marketplace, un élément pour pour mettre en relation des personnes, pour plein de choses. Et au final, on se rend compte que la construction de vélo durable est quelque chose qui nous paraissait super importante. Le vélo cargo est pour nous la pierre angulaire de ce sujet. Et voilà, donc ça c'est le début. Deuxième point, c'est de se dire, on part sur un vélo cargo, on est sur une fabrication de produits, on va en prendre pour quelques années, le temps de faire connaître la marque, ouais, de rassurer tout le monde. Donc on est sur plusieurs années. On fait partie d'un groupe, hein, qui s'appelle GDCOM, qui contient des entreprises à impact positif.
Répétez, Étienne, parce que ça a bugué un tout petit peu. Vous faites partie d'un groupe, ouais, qui s'appelle GDCOM, c'est ça?
GDCOM, et dans ce groupe-là, il y a des entreprises à impact positif. Donc, ouais, on est vraiment accompagné sur le long terme. Typiquement, j'ai une société sœur qui s'appelle Fonto de Vivo, qui fait des purificateurs d'eau pour les ONG. Il y a déjà 25 000 ouais, unités dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont pas spécialement pour faire du cash, quoi. De la même manière, on a été accompagné dès le début pour pouvoir faire un vélo qui soit durable dans le temps. Et voilà, donc là, si on reprend les 5 années depuis 2020, l'année 1, on a fait notre promo, 2022, on a fait la pré-série, et depuis 2023, on a mis nos vélos en rodage avec grand succès sur toute l'Europe, ouais, principalement en France. Mais aujourd'hui, on a une centaine de vélos qui roulent, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de problème de SAV, on est prêt à développer et à se faire accompagner.
Ça c'est intéressant ce que vous dites. Donc en gros, vous avez produit une centaine de vélos, vous avez distribué une centaine de vélos, hein, c'est ça, depuis 2023.
Oui,
et aujourd'hui, le retour en SAV est très faible ou quasiment inexistant, si ce n'est tout ce qui est entretien des pièces d'usure, les plaquettes de frein, les pneus et ce genre de choses.
On a fait, pour être totalement transparent, au-delà des plaquettes, etc., on a fait quelques moyeux arrière. Donc ça dépend vraiment, ouais, de l'usage des personnes et de la géographie où on se trouve,
ouais,
et du coup du moyeu. Et on a fait on a dû faire 3 moteurs, quelque chose comme ça, qui ont été pris en charge sous garantie. Donc on n'a pas de problème structurel ou d'éléments, ouais, qui pourraient mettre à mal notre modèle.
Donc en gros, est-ce que vous êtes en train de dire que pour lancer sa marque de vélo en France, il y a deux choix possibles. Il y a potentiellement de l'achat sur étagère en Chine, et puis on assemble tout ça, et puis Inch'Allah, ou partir sur de la production locale qui est un peu plus long, qui est un peu plus cher, qui est un peu plus difficile, mais avec à l'arrivée des vélos qui sont effectivement plus durables.
Oui, absolument.
Étienne, il faut vraiment, oui, que vous vous mettiez dans un endroit où le réseau est bon, parce que ça bug un peu.
D'accord. L'idéal pour nous, c'est d'avoir le vélo qu'on récupère quand on était chez notre grand-père, où le vélo, il est en acier, il est parfait et il est pas piqué. Donc, on voulait vraiment quelque chose qui reste dans le temps,
ouais,
avec les propriétés qu'on peut retrouver aussi sur un karting ou sur un ULM. Cette technologie acier qu'on aime beaucoup et, ouais, que l'on trouve durable et que l'on trouve dans le coin de Nantes, par exemple.
Est-ce que vous pensiez, quand vous êtes lancé, que fabriquer ou lancer sa marque de vélo, ce serait aussi difficile et aussi long?
Non, et surtout qu'on a pris ce que tout le monde connaît, hein, le 2020 Covid, ensuite surstock pour tout le monde jusqu'à 2022, rétablissement 2023, 2024, 2025, et là on reprend tout doucement pour ceux qui vont permettre d'avoir les reins solides et pouvoir, ouais, passer cet hiver un peu rigoureux.
Vous diriez que c'est ça que vous avez sous-estimé, c'est entre guillemets la demande, le surstock que toute l'industrie a connu en post-Covid?
Ce qu'on a sous-estimé aujourd'hui, c'était la partie décollage. Il aurait fallu être en capacité de produire et de conceptualiser beaucoup plus vite le vélo. Là, notre dernier vélo qui est le plus...
Alors pareil, attention Étienne, on est encore en train de vous perdre. Le dernier vélo que vous... Allez-y, dites, le dernier vélo.
Oui. Le dernier vélo vendu, c'est le 2x20 pouces. On l'a sorti début 2025.
Oui.
Et voilà, donc si j'avais eu l'élément actuel, on aurait passé beaucoup plus vite la conception. Mais il faut, on aurait moins de d'expérience.
Alors Étienne, je suis désolé, mais le son est vraiment pas bon quand je vous écoute. Je sais pas où vous êtes, si vous avez du réseau ou pas. Mais ouais, vous êtes en train de dire qu'en gros, vous avez aujourd'hui dans votre gamme, vous avez deux vélos, un vélo 24 pouces et un vélo 2x20 pouces, hein, c'est ça? Donc une sorte de mini longtail, c'est ça?
Absolument. Et ouais. Le vélo, le dernier vélo produit, 2 x 20 pouces, et le vélo que l'on a créé en fait suite à tout ce que l'on a découvert aussi sur l'autre, ouais. Amélioré. Et effectivement, si on avait pu prévoir mettre en place la totalité de ces éléments en 2 ans, ça aurait été l'idéal. Maintenant, on n'aurait pas eu le recul et le retour de l'expérience que l'on a eu en 2 ou 3 ans.
Voilà. Est-ce que vous êtes en train dans ce que vous avez appris, est-ce que vous, en gros, et c'est peut-être aussi une évolution du marché, que finalement, on est sur une recherche de longue-telle ou de vélo cargo qui sont finalement plus compacts et plus maniables et plus faciles à appréhender, c'est ça?
Absolument. Et le côté maniabilité pour les primo-accédants est clé. Oui. Et d'autre part, il y a le côté stockage qui est important dans les agglomérations. C'est ce qui représente, quand on prend le top 10 des agglos, en règle générale, les 20 pouces sont vraiment, les 2 fois 20 pouces sont un peu moins roulants que lorsque l'on a une grande roue à l'avant ou une grande roue à l'avant et à l'arrière. Néanmoins, en termes de stockage, de maniabilité, typiquement dans les racks SNCF ou monter le vélo dans un appartement, le 2 fois 20 pouces est à la part belle des ventes.
C'est une vraie solution. Pour reparler de l'industrialisation de la France par le vélo ou le vélo pour aider à réindustrialiser la France, politiquement, l'APIC accompagne la production industrielle du Made in France, elle stimule aussi un peu l'offre. Est-ce qu'il n'y a pas un truc finalement qui est aussi super important, qui est de stimuler la demande ?
Alors sur les demandes, les freins que l'on a pu constater aujourd'hui, donc il y a vraiment l'accès au vélo, comment la personne achète le vélo.
Donc ça, quand vous parlez d'accès, c'est quoi ? C'est un enjeu de distribution
le prix globalement pour avoir quelque chose de correct, on est tout de suite à partir de 2 500 € jusqu'à 6 500 ou plus. Ouais. Et ça, c'est déjà un frein. La personne qui va acheter va prendre un risque en fait. Donc nous, on est là en tant que on essaye de proposer limiter ce risque. Alors soit en leur disant regarde, si tu achètes ce vélo là, lorsque tu revendras, il aura la même qualité, donc tu ne prends pas vraiment de risque. Ouais. Ou alors, comme peuvent le faire des agglomérations, proposer des vélos en location à 70 € par mois pendant un an. Là, pareil, il n'y a pas de risque. Ouais. Donc ça, il y a des freins levés au niveau de ces solutions d'accès. Ouais. Et d'autre part, après, il y a les infrastructures. Lorsqu'on voit des infrastructures dont on parlait en introduction qui sont déjà saturées, ça grince toujours un petit peu, ça frotte toujours un peu lorsque on passe d'un usage voiture à un usage vélo. Donc ça, c'est normal et je dirais c'est bien. Il faut maintenant que les métropoles puissent suivre. Et le dernier point sur les accès, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est encore en fonds propres. Les accès à la réindustrialisation ou l'industrialisation, aujourd'hui, on n'a pas eu, sur les grands formats, les grands budgets qui ont été proposés à l'époque, il n'y a pas eu d'aide ou de subvention telle quelle, que ce soit par la CCI, par les mairies, par les régions, etc. Ouais. Donc on est un peu seul, que ce soit les magasins, que ce soit les fabricants, etc., pour ce fameux sujet dont on entend parler partout de réindustrialisation.
Parce que ce qu'il faut aussi expliquer chez vous, Ethny, les cadres, c'est vous-même hein, qui les soudez et qui les montez, qui les créez finalement. Alors vous avez aujourd'hui un partenaire pour fabriquer les cadres en France ?
Oui, alors nous, on est sur un modèle un peu classique où donc on parlait de semi-industriel, c'était tout à fait le cas. C'est que les tubes sont, on a plusieurs partenaires, hein. Les tubes sont découpés au laser cintré pour le côté reproductible de la chose. Ouais. On reçoit les cadres, ensuite ils sont soudés sur Nantes ou en Vendée. On les envoie chez notre unité de peinture thermolacage à quelques kilomètres qui permet de choisir sa couleur parmi 200 couleurs. Et puis ensuite, on les monte et c'est comme quand on achète un cadre en point de vente. En fait, voilà, on achète le cadre, ensuite on l'équipe. Le fait est que nous, on a déjà choisi les équipements, mais globalement, il ne reste plus qu'à intégrer le vélo. Donc on est effectivement concepteur et intégrateur, mais on crée aussi le cadre, on est cadreur à la base. Quoi. Ouais. Au final, on a créé un cadre.
Et pour avoir une idée, aujourd'hui, Ethny, c'est une capacité de production de combien de vélos par an ?
Le modèle aujourd'hui, en propre, on n'a pas de limite. Si on prend les différentes unités de production, on a fait l'exercice puisqu'on répond à des appels d'offres, appels d'offres de Rennes et ce genre de choses.
Pareil pour préciser, parce que même moi, l'appel d'offres de Rennes, c'est quoi ? C'est l'appel d'offres de vélo public de Rennes ou de vélo
vélo ? Je crois qu'il y a une délégation de service public, quelque chose comme ça, et il faut peut-être répondre à une quarantaine de vélos. Ouais. Et lorsque l'on répond à ce genre de demande, on a forcément cette question qui arrive, mais je comprends pas, vous êtes artisan, vous êtes industriel, etc. Ouais. Et nous, notre modèle, il est fait pour pouvoir travailler avec ses partenaires d'une manière, un passage à l'échelle qui serait il serait simple. Donc là, en l'état actuel, le risque, il est dans l'exécution et dans le pilotage. C'est-à-dire que si demain, on me demande 1000 vélos, je ne sais pas faire, on ne sait pas faire. Mais si demain, on nous demande quelques centaines de vélos, on peut suivre compte tenu de l'organisation que l'on a. Les industriels avec lesquels on travaille, eux, n'ont pas de limite, en fait. Donc ça va plutôt être dans le maintien de cette...
Et donc la limite, elle va être dans la coordination et le suivi du projet de production de ces 50 vélos ou 100 vélos.
Voilà, un peu plus de quelques centaines par an. Pour l'instant, dans le modèle actuel, c'est quelque chose qui est prévu.
Ok. Et pareil, pour essayer de bien comprendre, là, c'est un peu le point que vous abordiez tout à l'heure sur les points de friction. Vous, en tant qu'acteur du cycle, vous intervenez, vous agissez, vous êtes aussi un acteur de la politique cyclable, d'accompagner ou de. Comment est-ce que vous faites votre propre lobbying? Est-ce que vous avez le temps de le faire, notamment?
Alors, c'est une très très bonne remarque. Le premier, non, on n'a pas le temps de le faire. Néanmoins, on fait quand même partie de deux organismes. Donc, le CIGO, qui est une grosse partie ouest du groupement industriel des fabricants de vélos.
De l'ouest de la France.
Et de l'ouest, exactement. Ensuite, il y a l'autre partie qui est pour moi la plus active, c'est tout ce qui est les boîtes à vélos France.
Ouais.
Et là, pour lequel il y a des par exemple, la personne, Charles, qui travaille chez Fleximodal, avait en charge un atelier qui permettait d'outiller en fait les différents ministres des bonnes pratiques de vélo cargo. Voilà, si tu veux mettre des vélos cargo dans ton environnement, fais attention à ça, les tailles, c'est ça. Donc on va outiller les ministères avec les bonnes pratiques proposées par les fabricants et les usagers, les professionnels du vélo cargo. Donc voilà les deux propositions qu'on a aujourd'hui.
On va se faire la pause musicale parce que ça fait, il est 14h15. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM. Rayon Libre qui tente de stimuler la demande en racontant toutes les semaines en quoi le vélo est un outil formidable. Personne ne me le demande, mais c'est le moment de se faire une respiration musicale. On va s'écouter. On va s'écouter Holding On For Life. C'est un morceau qui est formidable. Je vous retrouve dans 3 minutes avec Étienne Dreyer, cofondateur de la marque Ethny. À tout de suite. Nous sommes toujours avec Étienne Dreyer, cofondateur d'Ethnicycle. On évoque les joies et les difficultés d'imposer sa marque de long tail dans le paysage français. C'est la deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune 93.1 FM. Étienne, vous êtes sur un marché qui est très concurrentiel. Qu'est-ce qui est différenciant selon vous sur Ethnicycle?
Pourquoi notre Pourquoi notre vélo par rapport à une grande marque, on nous pose souvent la question.
Ouais.
Alors nous, on est quand même l'orientation, elle était quand même d'avoir quelque chose. Je dis pas que les autres ne sont pas fiables, loin de là, mais on est plutôt sur le côté réparable,
ouais.
Avec le réseau qui peut suivre. Et là, on ne parle pas que du point de vente. On va parler aussi de tous les acteurs. Typiquement aujourd'hui, on va pouvoir faire appel à quelqu'un qui soude de l'acier. Et ça, c'est quelque chose de clé pour nous. En fait, le cargo. Ça remplace la voiture, c'est
ouais.
pas un vélo fitness et on est vraiment sur un vélo de confiance sur le long terme, autant avec le client, aujourd'hui
ouais.
il est irréprochable sur le service, mais autant sur le produit, c'est-à-dire que la personne elle a confiance dans le produit jusqu'à la fin et en plus ça nous permet d'adresser l'industrie locale. Si on avait fait le choix technique d'un moule alu par exemple, qui a quand même plein d'avantages, eh bien, on aurait été pieds et poings liés avec ce fournisseur-là. Là, aujourd'hui, on peut faire intervenir n'importe qui pour une modification, une réparation, etc. Dans 10 ans. Donc ça, c'était vraiment la clé et ça nous permet surtout d'instruire aussi de manière plus simple et économique le système local, d'industrie locale.
Ouais.
Ça, c'est ce qui nous plaisait à la base.
Et vous évoquez souvent la durabilité avec notamment un vélo qui ne perd pas de valeur. Vous avez un exemple de clients qui ont acheté votre vélo et qui finalement, la vie faisant, ils ont peut-être moins besoin d'un long tel et qu'ils l'ont revendu à un bon prix ou pas?
Oui, ouais, alors on arrive à la fin de certains cycles.
Ouais.
D'ailleurs, on discute avec beaucoup de points de vente, hein. Les vélos points de vente, les points de vente cargo, il y en a quelques centaines en France, donc
ouais.
on a vite fait le tour. Et globalement, là, on arrive avec une nouvelle concurrence qui est la fin du premier cycle des vélos cargo qu'on a tous acheté il y a 5, 6, 7 ans.
Ouais.
Donc là, il y a cette première grande vague. Donc ça, c'est le cycle deux enfants, etc. Nous, on a eu deux personnes qui ont vendu leur vélo, dont un que j'ai en tête sur Nantes, qui est reparti en une semaine à travers le réseau cyclable. Voilà.
Ouais. Il est reparti à un bon prix.
Il est reparti à un prix tout à fait classique. Compte tenu du fait que les équipements installés sur le vélo, en fait, même sans connaître la marque, les personnes n'ont pas peur. La garantie des technologies embarquées, que ce soit pas une courroie Gates ou un moteur
ouais.
Bosch, il n'y a pas de risque en fait.
Ouais.
Il n'y a pas de risque et encore une fois, on enlève le risque côté acheteur.
Et au-delà de ça, justement, là, parce que vous parlez de vos revendeurs, qu'est-ce qui est fondamental pour vos revendeurs quand ils s'intéressent ou quand ils veulent référencer un produit comme le vôtre, Ethnicycle?
La complexité peut venir des grands groupes que l'on connaît tous, où là, lorsque l'on rentre, et ça revient, on s'approche de la question volume,
oui.
Lorsque l'on veut rentrer dans un grand groupe, on est obligé de pouvoir répondre à des demandes soudaines, à des prix assez hauts, en fait,
oui.
Avec des grands volumes. Donc ces grands groupes, aujourd'hui, on ne peut pas les adresser. Néanmoins, pour tous les franchisés, si on veut leur vendre un vélo ou si le responsable du magasin et propriétaire du magasin sous franchise veut nous acheter le vélo, on vérifie avec l'acheteur que ce vélo ne va pas dégrader la marque du groupe.
Ouais.
En général, on a une bénédiction et ça reste comme ça. Donc pour répondre, on attaque plutôt soit des magasins de moyenne taille qui vendent des vélos plutôt moyenne haut de gamme. Et ensuite, on vérifie que les technologies embarquées, par exemple la courroie, hein, c'est tout bête, mais certaines personnes ne sont pas en capacité de l'exploiter.
Ouais.
Voilà, on les aide s'ils veulent bien le faire et qu'il y a toujours ce petit côté service client plus qu'on aime bien, eh bien, on fait le deal. Et le dernier point, ça va être la marge. On essaye d'avoir des marges raisonnables pour le point de vente et pour le fabricant
ouais.
pour qu'on puisse tous en vivre.
Est-ce que aujourd'hui le vélo Made in France, en tout cas Ethnie, c'est un vélo qui est... Est-ce qu'il est labellisé d'ailleurs Made in France, ce vélo?
Non, il y a plusieurs tiers qui existent aujourd'hui, qui sont tous différents. Il faudrait qu'on y passe du temps. Néanmoins, il y a toujours une partie qui peut être, sauf pour des moteurs 100% français, qu'on n'a pas utilisé aujourd'hui. Mais globalement, tous les vélos ne sont pas labellisés Made in France. Enfin, tous les vélos ne sont pas labellisables.
Oui.
Le nôtre n'est pas passé à travers. Alors,
le vôtre n'est pas labellisable, mais c'est intéressant parce que pourtant vos cadres sont faits à partir d'acier. Ils sont soudés sur place, soudés en France, etc., etc. Mais aujourd'hui, oui. votre vélo Ethnicycle, il n'est pas labellisable vélo Made in France.
Non, il faudrait qu'on prenne le temps. On parlait de temps tout à l'heure. Il y a le Cycloscore notamment qui
oui.
existe, mais qui va prendre notamment tout un tas de questions sur le recyclage des batteries, etc. Donc il faut formaliser ces processus. Nous, on ne l'a pas encore fait. Maintenant, on utilise les mêmes batteries que nos concurrents. Donc voilà, c'est plus du temps à passer. Et dans ces formalisations de Made in France, Il y a le temps passé sur la conception, ouais. Le temps passé sur l'intégration et la provenance des pièces. Et pour terminer, il y a je crois que c'est le seul chiffre d'affaires par poste, en fait.
Ouais.
Et donc, si c'est 100% du chiffre d'affaires qui est fait en France, donc ce sera 100%. Mais si la main-d'œuvre représente 99%, peut-être que le vélo sera made in France, etc.
Ça veut dire que malgré tout, c'est à vous, Étienne, qui êtes patron de cette entreprise et de cette marque, de prendre le temps pour le labelliser, ce vélo. Au fait, c'est pas fait dans l'autre sens. C'est pas un cabinet de consultants qui vient vérifier chez vous et puis qui vous
met. Non, il faut prendre le temps. C'est une belle opportunité. C'est vraiment un beau projet. Tout ce qui a été fait par le Cycloscore, etc. Mais il faut prendre le temps en tant que marque de le faire. Et aujourd'hui, on n'a pas pris le temps. Sur le côté made in France quand même et durabilité, c'est quand même quelque chose qui est propre à la marque et c'est un choix stratégique. Néanmoins, sur la totalité, on a interrogé nos clients il y a sept mois, et on leur a posé la question: qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi vous avez acheté ce vélo, en fait?
Ouais.
Le made in France et le durable arrive en 4 et en 5.
Ouais.
Le premier, c'était le design, en 2, la maniabilité, parce que nos agents commerciaux nous ont demandé des enjambements très très bas, etc. Donc le design, la maniabilité. Et puis, j'ai plus le dernier en tête. Si c'était le fait de pouvoir choisir sa couleur, de le personnaliser.
Ouais. Mais donc, ça veut dire que, entre guillemets, il va falloir que je lance la chronique d'Abel. Ça veut dire que vous, c'est aussi un choix stratégique. Passer du temps là-dessus, sur cette labellisation du Made in France, alors que ce n'est pas nécessairement le facteur clé de décision de vos clients.
Non. Ça permet d'adresser la durabilité et le côté réindustrialisation, une marque de fabrique pour nous.
Étienne, il faut que je lance la chronique d'Abel Guggenheim. Vous écoutez Rayon Libre, nous sommes toujours avec Étienne Dreyer, le cofondateur d'Ethny, celui qui est aujourd'hui aux commandes de la marque et l'entreprise. C'est l'heure de la chronique d'Abel Guggenheim. On revient avec une dernière question pour vous, Abel, mais pour l'instant, Abel, c'est à toi.
Bonjour. Je souhaite aborder aujourd'hui avec vous le sujet général de la régulation de la circulation. Elle peut se faire soit par des feux, soit par des systèmes de priorité, soit sans règles. Ce dernier cas concerne les circulations piétonnières entre elles, pour lesquelles il n'existe, à ma connaissance, aucun système de régulation, ni sous forme de feu, ni non plus par des règles de priorité. Il y a pourtant de nombreux lieux et circonstances, gares, métros, marchés, grandes fêtes, manifestations, où ces circulations sont nombreuses, bien plus que celles des véhicules motorisés. Mais les éventuels conflits sont réglés par les vitesses naturelles des piétons et par la courtoisie. Il nous arrive d'accélérer ou de ralentir légèrement en croisant la trajectoire d'un autre piéton, mais sauf exception, cela ne donne lieu à aucune difficulté. À l'inverse, pour les automobiles entre elles, il semble qu'à partir d'un certain volume de circulation, il soit difficile de se passer de feu pour la réguler. Les expériences des villes sans feu semblent ne concerner que des localités de petite taille. On peut se demander si l'on a raison de considérer les feux de circulation comme un élément naturel du territoire urbain dont on a l'impression qu'ils sont indispensables à l'équilibre de la ville à côté des immeubles, des arbres, des éléments de mobilier urbain. Ne serait-il pas plutôt un peu un signe visible de régulation d'une des principales activités humaines, les déplacements? On ne peut que remarquer que, présenté comme un idéal que chacun devrait scrupuleusement respecter, ce que j'appelle parfois la religion des ampoules colorées, le respect réel est tout relatif et soumis à des règles réelles variables. La régulation entre les circulations des piétons et celle des véhicules motorisés est complexe, et sa réalité est différente des règles théoriques censées les organiser. Lorsqu'il s'agit de feu, les automobilistes s'arrêtent généralement au feu rouge, même lorsqu'aucun piéton ne traverse. Mais tout le monde le sait, il est socialement admis en France, si aucune voiture n'est susceptible d'arriver dans les tout prochains moments, que les piétons traversent quelle que soit la couleur de ce qui leur fait face. Mais lorsqu'il s'agit d'une traversée non couverte par un feu, ce sont à l'inverse souvent les piétons qui ne bénéficient pas dans la vraie vie du droit de traverser que le code de la route leur accorde explicitement. Mais qu'en est-il des cyclistes? Les vélos sont des véhicules, donc soumis aux mêmes droits et obligations de respect des feux et des priorités que les autres véhicules. Si les automobilistes laissent généralement passer lorsque leur feu est rouge, il n'est pas rare qu'il n'en soit pas de même en l'absence de feu lorsque la règle de priorité leur est défavorable, souvent simplement parce qu'une règle de priorité favorable aux cyclistes ne rentre pas dans leur espace d'imagination. Par rapport aux piétons, j'ai déjà eu l'occasion à ce micro et je ne suis pas le seul, de regretter non pas le respect relatif des feux par les cyclistes, mais, même s'ils et elles sont très minoritaires, le nombre trop élevé de cyclistes qui ne respectent pas les piétons. À lundi prochain.
Merci beaucoup, Abel Guggenheim. Alors désolé Étienne, parce que c'est le moment de terminer. Vous écoutiez Rayon Libre. N'oubliez pas, le vélo est une chance, ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. Nous étions avec Étienne Dreyer, cofondateur de l'entreprise Ethnie. Et évidemment, je vous invite à aller sur ethnicycle.fr, je crois. Merci beaucoup Étienne.
.com.
.com. Merci Étienne.